SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
Allez, place au personnage de la semaine et nous partons au Sénégal qui a choisi de se doter d'un jeune président incarnant la rupture. Représentant du parti PASTEF, les Patriotes, Bassirou Diomaye Faye était à peine sorti de prison qu'il a mené une campagne express en lieu et place d'Ousmane Sonko, interdit de se présenter. Sorti victorieux des urnes, il va devoir se faire un nom, Valentine.
Bonjour, bonjour à tous. Début février, prétextant des irrégularités dans la sélection des candidats, le président du Sénégal, Macky Sall, prenait le monde de court en annonçant l'annulation surprise de l'élection présidentielle prévue 3 semaines plus tard, le 25 février 2024. Après une levée de boucliers au sein de la population sénégalaise et une inquiétude palpable à l'international, le scrutin a finalement eu lieu. Il s'est déroulé le 24 mars et les résultats sont sans appel. Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'opposition, a été élu dès le premier tour avec plus de 54,28% des voix.
C'est donc une victoire très personnelle pour Bassirou Diomaye Faye, mais c'est aussi une victoire pour la démocratie.
Absolument, car le président sortant Macky Sall a fait craindre le pire. On le soupçonnait de s'accrocher au pouvoir ou de chercher à tout prix à mettre son dauphin très impopulaire dans la place. Beaucoup dénonçaient même une crise constitutionnelle. Finalement, les institutions ont été les plus fortes. Le Conseil constitutionnel a refusé que le président reste en place au-delà de la durée de son deuxième mandat début avril et avancé la date du scrutin qu'il voulait fixer en décembre. L'élection, quant à elle, s'est déroulée dans le calme, avec un taux de participation relativement élevé de plus de 60% dans un contexte de carême et de ramadan, et avec une forte mobilisation des jeunes électeurs. Enfin, tous les candidats ont reconnu leur défaite et félicité rapidement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire, depuis son principal opposant Amadou Ba et jusqu'à Macky Sall qui a publié sur X « Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant, c'est la victoire de la démocratie sénégalaise. »
Et Valentine, le moins qu'on puisse dire, c'est que Bassirou Diomaye Faye a réussi malgré un déficit de notoriété.
Alors en effet, il est beaucoup moins connu qu'Ousmane Sonko, qu'il a remplacé au pied levé en novembre dernier, alors que celui-ci était emprisonné pour diffamation et débauche de mineurs. Mais les deux hommes se connaissent bien, ils se connaissent depuis les années 2010 et ils sont proches. Le slogan « Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko »,« Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko » a d'ailleurs très bien fonctionné dans les meetings du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF que Sonko a créé et dont Bassiaro Diomaye-Faye devient secrétaire général en 2022. Ils sont les deux faces d'une même pièce avec deux styles différents, a expliqué Mustapha Sarr, un formateur des militants du PASTEF. Du point de vue de la carrière, Bassirou Diomaye-Faye, 44 ans, a fait des études de droit puis l'école d'administration du Sénégal avant de devenir inspecteur des finances publiques. Il a été incarcéré en avril 2023 pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, en fait pour une critique du procès intenté à Ousmane Sonko. Il a été libéré à la faveur d'une amnistie 11 jours avant l'élection où il était néanmoins autorisé à concourir alors même qu'il était emprisonné. Musulman pratiquant, candidat souverainiste anti-système, pourfendeur de la corruption mais sans expérience élective ou ministérielle, il a finalement été le plan B gagnant de l'opposition.
Il est considéré comme le candidat de la rupture, je cite. C'est quoi ses projets ?
Dans son premier discours, le nouveau président a déclaré, je cite, « Au vu des urgences qui nous étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillons de manière acharnée, diligente et méthodique autour de chantiers prioritaires. » Alors parmi ces derniers, il a évoqué la réconciliation nationale, la réforme des institutions, l'allègement du coût de la vie et la mise en place de solutions en faveur de l'alimentation, la santé, l'emploi, le logement et l'éducation. Il a aussi mis en avant les femmes et les jeunes, deux catégories de la population qui ont très largement voté pour lui. Enfin, il a tenu à rassurer ses partenaires internationaux. On l'écoute.
Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive.
Enfin, concernant les relations avec l'Hexagone, même si Emmanuel Macron se réjouit de travailler avec lui, Bassirou Diomaye-Faye a indiqué dans un entretien au journal Le Monde, le Sénégal a déjà construit une formidable relation avec la France depuis très longtemps, malgré un début douloureux marqué par l'esclavage et la colonisation. Il ne faut pas que cela se poursuive dans un néocolonialisme qui nous maintienne dans la dépendance. Cela suppose une remise à plat des liens qui unissent les deux pays, sachant que le Sénégal ne s'interdira aucun partenariat international par ailleurs, y compris, a-t-il dit, en dehors des États-Unis ou de l'Union européenne. C'est donc une nouvelle page politique qui s'ouvre pour le Sénégal.
Merci beaucoup Valentine Sabourot.
Quant au faucon de la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable. C'est justo, tenaz y sincero, c'est solo tú, c'est solo tú.
Olivia Ruiz et sa chanson Le Sel, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. Allez, dans l'émission maintenant, deuxième partie de l'entretien que j'ai pu avoir avec Jean-Michel Tibi, le monsieur de la Formule 1. Il connaît tout, surtout. Et on revient sur un week-end particulier, le week-end d'il y a 30 ans. C'était le week-end du 1er mai et le décès d'Ayrton Senna.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Si on revient sur ce week-end du 1er mai, enfin le week-end fatidique du 1er mai 1994, comment vous l'avez vécu ce week-end ? Parce qu'on va en reparler là dans les mois à venir, ça va être le 30e anniversaire. C'est forcément quelque chose dont on va reparler. Il y a eu des documentaires de faits sur... Mais il faut se rappeler que, bon, oui, Senna est décédé et c'est dramatique. Ratzenberger est décédé la veille. Il y a eu un accident énorme avec Barrichello l'avant-veille, vendredi. Et pendant la course, après le décès d'Ayrton Senna, il y a eu un accident avec Michele Alboreto aussi dans les stands. Je crois qu'une roue s'est échappée et est partie de... Bah, c'était vraiment un week-end.
Et sur la grille aussi, au départ.
Oui, hein, sur la grille,
départ,
exactement.
Il y a aussi un autre crash.
Donc, c'était hallucinant ce week-end. Quand on regarde en arrière, on peut être fatidique, on peut croire en ce qu'on veut. Mais il s'est quand même passé énormément de choses sur un week-end maudit.
Alors, il faut aussi voir les choses en arrière. C'est qu'à cette époque-là, c'était Max Mousselet qui était président.
Oui,
Max
oui.
Mousselet et Bernie Ecclestone qui dirigeaient la F1 et qui étaient aussi vice-président de la FIA. Et qu'en fait, ces deux personnes-là étaient dans le sport automobile depuis assez longtemps, depuis très longtemps. Et eux-mêmes ont perdu des pilotes, des amis dans le sport. Donc, je ne sais pas comment dire, mais en fait, c'est inhérent au métier. Oui. De pilote de course.
Donc on n'était plus habitué à ça, par contre.
D'avoir des décès. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est pas moi qui l'ai inventé, et pas en français, c'est The show must go on. On doit continuer le show. Jusqu'où? Jusqu'à quelle limite, évidemment? Le vrai souci avec le décès d'Ayrton, c'est qu'en fait, ça a été en direct. Évidemment, tout le monde pense à Jim Clark, Jochen Rindt, mais on n'a pas vraiment les images de Jochen Rindt, de Jim Clark, de François Sever.
Ouais, François Sever aux États-Unis.
Qui finit avec la tête coupée. Ouais. Enfin, tout ça, on nous raconte et puis on essaie d'imaginer. Mais là, en fait, c'est une mort en direct et c'était la mort de la superstar de télévision. En direct.
Et la star qui était égratignée sur ce début de saison, qui avait des problèmes dans sa nouvelle voiture, qui était là et qui partait sur un Grand Prix presque de rédemption. Il était là, ok, la saison commence maintenant. Et en fait, elle s'est terminée totalement.
Avec le petit jeune qui était là, qui était Michael.
Tout à fait, ouais. qui gagne d'ailleurs.
Et puis vraiment, qui évidemment n'était pas heureux puisqu'il savait qu'il y avait un très énorme problème. Et en fait, donc le moi je n'étais pas à Imola ce week-end-là, donc en 1994, 1er mai 94. Mes cousins étaient mes deux cousins avec qui je partage la passion automobile du sport, la passion du sport automobile étaient sur place. Ils étaient dans le stand Renault. Ils étaient avec tous les gens de chez Renault, et donc ils ont compris, Williams Renault, ils ont compris tout de suite qu'il y avait un très grave problème. Il n'y avait pas de portable à l'époque, donc en fait on ne pouvait pas communiquer. Moi, quand j'ai vu l'accident à la télé, déjà je me suis dit, s'il ne sort pas de la voiture, c'est que c'est évidemment très très grave. C'est-à-dire qu'en fait, donc il doit être paralysé quelque part, puisqu'il ne peut pas sortir avec ses bras ou avec ses jambes. Et puis, il a un léger mouvement de tête.
Oui, il a eu ce mouvement de tête.
Il a un léger mouvement de tête. Et puis après, il y a tous les Marshall qui viennent et qui essayent de l'extraire, qui l'extrait. Et puis après, on voit toutes ces images en hélico qui le filment. On voit ces taches de sang au sol. Bon, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'était fou. C'était vraiment le... Je sais pas, je vais pas faire un blasphème, mais c'était un peu la crucifixion du Christ en direct, quoi, devant nous à la télévision. Le Christ de la Formule 1.
Ouais.
Le Christ de la Formule 1, soyons modestes. Et en fait, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ça a changé déjà la manière pour nous de filmer un accident. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un accident, on ne filme, évidemment, toutes les caméras, comme je vous expliquais, essaient de tout filmer. Et en fait, tant que le pilote ne parle pas ou n'est pas sorti de la voiture, on ne remontre pas ni le replay, ni un plan large, on filme autre chose. Voilà. Et puis aussi, les équipes médicales, elles mettent aussi des draps devant, des draps ou des screens pour cacher, évidemment. Et bon, je trouve ça absolument normal parce qu'on ne va pas s'apitoyer.
Il y a des familles qui regardent. Si on reprend sur l'exemple de Romain Grosjean, sa femme, ses enfants étaient devant la télévision. Et pendant les quelques minutes du trauma, on peut se poser, on a un milliard d'idées qui passent par la tête. Heureusement, ça s'est bien fini pour Romain.
Heureusement. Et incroyablement, si on regarde les images de Romain Grosjean, je vais vous donner un petit scoop là.
Elles sont incroyables, les images.
Non, mais si on regarde les images de Romain Grosjean, donc il y a un hélico qui filme le départ. Et évidemment, toutes les caméras, il y a une caméra à peu près, il y a 40, entre 35 et 40 caméras autour de la piste. Et évidemment, Romain était, on va dire, le 18e ou 19e. Et si vous vous souvenez, il y a Kimi Raikkonen qui part large sur le côté à gauche. Et en fait, toutes les caméras, elles panotent avec les 3, 4 premiers ou les 10 premiers. Et donc, toutes les caméras ont panoté pour filmer les 10 premiers. Et la seule caméra qui a filmé l'accident de Romain Grosjean, c'est l'hélicoptère.
Mmh.
Heureusement.
Oui, on la voit du dessus, exactement.
Mais c'est la seule image. C'est la seule image parce que toutes les caméras étaient tournées vers les voitures qui partaient au virage 3 ou 4. Voilà, au virage 4. Et en fait, voilà quoi. Donc en fait, toutes les caméras sont très importantes. Et tout le monde, quand on travaille, on a tous une responsabilité de se dire que, en fait, on est là, on doit filmer au maximum. Et d'ailleurs, de temps en temps, quand je fais d'autres championnats automobiles et que je fais des courses, que je filme des courses, je suis sur la piste parce que je veux changer des fois. Je veux pas tout le temps être dans les stands, donc je vais sur la piste. Et en fait, sur une course, par exemple, je filme une heure et il y a 60 voitures. Ben, pendant une heure, je panote. On comprend panoter ?
Ouais, complètement. Ouais.
Je filme toutes les voitures. En pensant qu'il y ait peut-être un problème sur la voiture 1 ou la voiture 4 ou la voiture 12. Et en fait, c'est notre métier. Alors, on n'est pas tout le temps assis au soleil en train de regarder le soleil. Et...
Malgré le fait que tu voulais bien bronzer quand même.
je t'enverrai. Je te dirai où j'ai été.
Devenu celui que tu voulais être, ton corps maintenant
est comme avant,
dans la peau de daron
est comme avant.
Gilles Kaplan, le grand retour de Gilles Kaplan, qui avait vraiment fait un carton dans les années 80, Gilles Kaplan, avec cette voix un peu jazzy, et bien elle revient avec un nouvel album, et cette chanson Daron, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Nous recevons sur les ondes de Radio SBS Zaya Ziwani, chef d'orchestre française de 45 ans en visite en Australie. Zaya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue ici donc en Australie, vous commencez par Melbourne, mais vous allez aussi aller à Perth, à Brisbane, à Sydney, dans le cadre du French Film Festival, puisque vous assistez à la diffusion du film Divertimento, qui est consacré à votre vie. On va en parler dans un instant, mais avant de parler du film, je voudrais justement parler de votre vie. Vous êtes une chef d'orchestre, on l'a dit, aujourd'hui mondialement connue et reconnue. Mais le chemin a été semé d'embûches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Merci de votre invitation. Et en effet, c'est vrai que déjà par tradition, dans le milieu de l'orchestre symphonique, les femmes ont souvent eu des difficultés à trouver leur place. Et donc surtout, la personne qui incarne l'autorité, le chef d'orchestre. Donc c'est vrai que quand il y a 25 ans, j'ai commencé à faire ce métier, je voyais pas du tout de femmes diriger, et notamment diriger les grands orchestres. Et donc je me suis vite rendu compte que si je voulais justement réaliser ce rêve de devenir chef d'orchestre, il fallait que je me crée mes propres opportunités. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer l'orchestre Divertimento. Et puis avec cet orchestre, j'avais aussi envie évidemment de diriger les grandes œuvres, mais je me rendais aussi compte qu'il y avait plein de sujets sur lesquels ça serait intéressant de travailler, de m'engager en tant que chef d'orchestre, notamment à l'accès à la culture. Donc cet orchestre Divertimento, rapidement, il a été s'installer en Seine-Saint-Denis, dans un département à côté de Paris, assez populaire. Et puis on y a donné beaucoup de concerts. Et puis après, ça s'est le rayonnement s'est étendu sur toute la France, en milieu rural, en milieu évidemment urbain, en milieu carcéral aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais vraiment ce métier comme je souhaitais justement le faire et comme je souhaite le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait bouger les lignes, et donc c'est difficile quand on fait bouger les lignes. J'ai souvent rencontré des résistances dans le milieu musical et parfois encore maintenant. Donc c'était pas un chemin facile à entreprendre jusqu'à encore aujourd'hui.
Pantin, c'est là où vous avez grandi dans les années 80. Est-ce que vous avez ressenti qu'il était plus difficile de vouloir devenir chef d'orchestre, un milieu très fermé, très élitiste, très conservateur, en étant une femme, ou est-ce que c'était plus difficile en étant fille d'immigrés ?
Moi, je pense que c'était plutôt un ensemble de choses. C'était plus difficile parce que j'avais un parcours très différent de tous les autres chefs d'orchestre. Et encore, à cette époque, quand j'ai commencé, que j'observais les chefs d'orchestre, je voyais plutôt des hommes blancs, plutôt assez âgés, parce que c'était aussi pendant longtemps un métier qu'on commençait en deuxième partie de carrière. Donc moi, j'étais jeune, j'étais une femme, issue de la diversité, dans un quartier populaire. Donc forcément, je ressemblais pas du tout au parcours habituel et traditionnel des chefs d'orchestre. Donc oui, c'est pour ça que très vite, moi, je me suis rendu compte que si jamais je prenais pas mon destin en main, j'y arriverais pas. Et en même temps, toutes ces caractéristiques font que c'est en même temps la personne que je suis. Donc j'ai jamais essayé de ressembler aux autres chefs d'orchestre, de ressembler un petit peu à la norme que l'on attendait. Et donc c'est pour ça que j'ai défendu aussi une vision de la musique, une vision de la culture, une vision du métier de chef d'orchestre, qui était celui qui me ressemblait, cette vision voilà, du chef d'orchestre que j'avais envie de devenir, de la chef d'orchestre que j'avais envie de devenir. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un pari qui réussit.
On parle du fait que vous êtes une femme issue de la diversité, mais il y a aussi l'âge. Vous aviez 19 ans quand vous avez créé Divertimento. Comme vous l'avez dit, c'est pas un deuxième stade de carrière, c'était votre premier. On a peut-être pu vous reprocher la jeunesse, le manque d'expérience.
Oui, ça c'est vrai, et c'est vrai que pendant longtemps on pensait que pour être un bon chef d'orchestre, il fallait avoir de la maturité humaine et de la maturité artistique. Moi j'ai commencé, j'avais 16 ans, et donc évidemment que la maturité, l'expérience c'est important, mais il y a aussi d'autres qualités, et moi mes qualités à l'époque c'était la jeunesse, c'était l'énergie, c'était l'engagement, c'était le fait aussi d'avoir des idées différentes, mon parcours singulier, Donc voilà, donc en fait, j'ai essayé de compenser par plein d'autres qualités, par mon inventivité, mon audace et ma créativité.
Vous vous contentez pas de diriger un orchestre symphonique Divertimento, c'est son nom, on l'a dit. Vous en avez aussi fait une académie pour les jeunes. Vous jouez dans des grandes salles de spectacle réputées, mais pas que. Vous continuez à jouer en banlieue, vous allez jouer à la campagne, en province, vous jouez même dans le milieu carcéral. Divertimento, vous l'avez dit, c'est à votre image. Vous faites ça pourquoi ? Pour ouvrir les portes plus facilement que celles qui étaient fermées à vous quand vous étiez plus jeune ?
Oui, complètement. Et puis j'ai vu en effet le bénéfice, dans mon cas personnel, dans mon parcours, d'avoir eu accès à la culture. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir grandi dans une famille où mes parents, justement, nous ont permis d'écouter de la musique, de lire, d'aller aux expositions, de voir des musées. Et donc, aujourd'hui, je suis convaincue que la culture, elle permet justement à beaucoup de jeunes de se révéler, de découvrir leur potentiel, leur talent, de les ouvrir au monde et de développer leur esprit critique. Et donc, c'est vrai que cette chance que j'ai eue, moi, dans le cadre de la famille, si d'autres ne l'ont pas, ni dans la famille, ni à l'école, en tant qu'artiste, moi, je trouve que c'est important justement de porter aussi cette responsabilité et de s'engager aussi pour les autres, de transmettre. Donc voilà, je suis assez convaincue de ça en effet.
Oui, la famille, c'est très important pour vous. Vos parents, on l'a dit et vous l'avez dit, sont mélomanes. Vous avez une grand-mère qui vous a toujours soutenu, pas spécialement du côté de la musique, mais plus du côté de la combativité, qu'en tant que femme, on peut tout faire dans la vie. Vous avez une sœur jumelle qui est avec nous en studio aujourd'hui, qui est violoncelliste, soliste de chambre. Et vous avez un petit frère, Mehdi. Cette famille a toujours été très importante pour vous en tant que femme, pour vous en tant que chef d'orchestre ?
Évidemment, la famille, c'est ce qui aussi nous construit. C'est aussi dans le cadre familial qu'on a eu accès à la musique, qu'on a aussi construit notre force, qu'on a puisé dans cette force justement aussi la persévérance. Et nos parents nous ont toujours aussi transmis de très belles valeurs en disant, dans la vie, il faut rêver grand. Par contre, il faut travailler, il n'y a pas de sujet. Et donc, ils nous ont accompagnés, ils nous ont toujours fait confiance. Et je trouve que c'est important. Et quand on a des parents qui nous font confiance, on se fait aussi confiance à soi-même par la suite. Cette force, en fait, de la famille qui est déjà un premier collectif, moi, je sais que ça m'a beaucoup aussi inspirée quand j'ai voulu créer l'Orchestre Divertimento, de retrouver quelque part cette force dans un orchestre avec la solidarité, avec le partage. Alors, c'est jamais simple, même dans le cadre de la famille. Mais par contre, je trouve que quand justement on arrive à avoir cette force du collectif, on peut accomplir plein de grandes choses ensemble. Et c'est avant tout dans la famille qu'on a puisé ça chez nous.
Ce que votre famille vous a inculqué, ou en tout cas l'aide que vous avez reçue dans ce schéma familial, vous le mettez aujourd'hui en place en tant que mère, en tant que chef d'orchestre avec les jeunes qui intègrent votre ensemble. Est-ce que, à 45 ans, vous avez le sentiment que le plus dur est derrière vous ?
J'ai le sentiment d'avoir accompli beaucoup de choses et d'avoir aussi accompli beaucoup de choses, parfois dans la difficulté et la douleur, ça c'est sûr. Parce que quand on fait bouger les lignes, c'est difficile. On rencontre des résistances, on rencontre des personnes qui n'ont pas du tout envie que parfois les choses changent. Mais par contre, j'ai pas du tout l'impression d'avoir accompli en tout cas tout ce que j'avais à accomplir. Et il y a encore un chemin énorme et je sais qu'il y a plein de sujets sur l'égalité des chances, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'inclusion, la lutte contre le racisme. L'ouverture sur le monde, l'accès à la culture. Enfin voilà, il y a encore plein de sujets sur lesquels il y a tellement de chemin à faire. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, que mon métier d'artiste, il porte un sens, il porte un engagement. Et voilà, c'est aussi tous ces sujets que j'ai envie de continuer à faire avancer grâce à la musique.
Vous pensez que le chemin est encore long ?
Ah oui, il y a encore beaucoup de chemin, en effet, ouais. Parce que, bah, voilà, sur un métier comme celui de chef d'orchestre, il y a moins de 4% des chefs d'orchestre qui sont des femmes. En France, par exemple, les principaux orchestres, tous les orchestres nationaux, bah, pendant 25 ans, il n'y avait aucune femme à la tête de ces orchestres. Ce sont des orchestres qui sont financés par les fonds publics. Aujourd'hui, il y en a très, très peu. Donc, on se rend compte que, bien sûr, qu'il y a un chemin énorme à faire. Et si une jeune fille vient de me demander aujourd'hui, oui, Zaya, j'ai envie de devenir chef d'orchestre, parfois, évidemment que je vais l'encourager, parce que moi, j'ai détesté qu'on me décourage quand j'étais jeune. Et en même temps, c'est encore une réalité que de lui répondre, faut que tu saches aussi lever beaucoup d'argent pour que tu crées ton propre orchestre. Et je trouve que de nos jours, en France, au XXIe siècle, ça ne devrait pas être une réponse. Et donc voilà, donc oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Et puis, on parle beaucoup des inégalités en France sur les sujets d'accès à la santé, d'accès à la justice, à l'école, les effectifs de police. Mais la culture, je trouve que c'est aussi un des sujets les plus inégalitaires en France, parce qu'il y a encore beaucoup de territoires où on a difficilement accès à la culture et à la musique en particulier. Et donc, voilà, c'est ce sujet de lutter contre ces inégalités-là qui nous concerne beaucoup avec Fetouma, avec les musiciens de mon orchestre, moi-même. Et donc ouais, je pense qu'on a encore beaucoup de travail sur certains sujets en France, en effet.
Divertimento, c'est votre orchestre symphonique, donc c'est son nom, mais c'est aussi désormais le nom du film qui vous est consacré, à vous, à votre histoire, à celle de votre famille, de votre sœur jumelle Fetouma. Ça fait quoi d'avoir un film qui nous est dédié?
C'est déjà une grande fierté, bien évidemment, beaucoup de plaisir. Après, c'était assez inattendu. Mais quand ça s'est présenté, je me suis dit, ouais, c'est une formidable aussi opportunité pour raconter notre histoire, justement, avec toutes ces difficultés, ces résistances, et puis permettre aussi à des jeunes de voir aussi qu'on peut y arriver, malgré la difficulté, malgré les résistances. Et quand j'étais jeune, parfois, j'avais du mal à me projeter, parce que je ne voyais pas de femme chef d'orchestre. Et là, si le film, c'est un outil en plus pour justement montrer à des jeunes qu'en effet, on peut être jeune et on peut devenir être une femme et on peut devenir chef d'orchestre. Moi, je trouve ça formidable parce que c'est notre histoire, mais c'est aussi l'histoire de plein de gens. Et voilà, et je trouve que c'est important aussi de parler aux personnes qui se sentent parfois un peu exclues ou qui se sentent parfois un peu isolées, qu'en fait, bien sûr qu'il y a de la richesse et il y a de la force chez tout le monde, et que c'est pas parce qu'on vient pas d'un milieu aisé ou qu'on n'est pas le meilleur violoniste du monde qu'on n'a pas de valeur, au contraire. Et donc c'est un très bel, un très beau film, et qui est aussi un très bel outil aussi pédagogique pour les jeunes, je trouve.
Vous le trouvez juste, s'il vous plaît?
Oui, plutôt assez juste, en effet, mais ça, c'est un travail qu'on a mené avec Fetouma aussi, avec les équipes du film, la réalisatrice Marie-Cassimon Suanchard. Ça nous tenait à cœur de ne pas faire un film à n'importe quel prix. On ne voulait pas qu'il y ait des clichés, qu'il y ait des idées qui soient fausses et qui montrent aussi peut-être notre famille, notre quartier, notre ville, notre parcours sous un angle pas toujours très valorisant. Et on voit trop souvent au cinéma les familles issues de l'immigration sous l'angle des difficultés sociales, ces quartiers sous l'angle de la délinquance, de la violence. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Et ça, il faut qu'on en parle aussi. Même si parfois, évidemment, ça reste une fiction. Il y a eu des petits aménagements sur la temporalité, sur certains aspects. Mais il reste quand même très juste et très à l'image de ce qu'on a vécu et de la famille dans laquelle on a grandi.
Zaya et Fetouma Ziwani, merci beaucoup d'être venus nous rencontrer en studio.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Promenade, bord de mer. Promenade, que la lune est claire. En automne, en été, en hiver. Promenade, bord de mer.
Promenade à la ville, promenade d'un tout autre style. En octobre, en novembre, en avril, promenade sur le fil.
Mais c'est quoi qui coule de tes yeux? Cette envie dévorante de dire adieu.
Il y
Gaëtan Roussel avec la voix de Bertrand Belin, vous l'aurez reconnu, et cette chanson Promenade. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS, à tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Now, this residency will offer you really a unique opportunity. How do you see this residency impacting your artistic journey and community engagement?
Well, I think this is an incredible opportunity to learn and to be able to learn more about an area and in another culture and another place that I can bring back and then share with my community through my arts practice in both intimate forms and, like I mentioned, in larger spaces too. I work a lot in the public art realms up here in Brisbane,
yeah.
Specifically with my elders and traditional custodians, so that we might re-embed our stories back into the architecture, back into place, back into the country they were born from, to create really inclusive spaces where people can learn and experience our culture, to engage and to encode spaces where we might be able to use the stone arrangement in Woolloongabba, to name one of them, that is upcoming, which will be installed at the end of the year. I see this as an opportunity to be able to really learn and to be able to share this, so that we might be able to understand better the nature of tactile languages and how that can be applied here, how we can use creation methodologies and make art in spaces and share that.
What are some of the challenges you anticipate facing during your residency, and what are your main goals for the creative exploration you're embarking on?
Well, for one, it's going to be the language. I'm starting to learn French. I learned a little bit during my time in New Caledonia a number of years ago. A little bit. Un peu.
Non, ça va aller. Ça devrait bien se passer. You should be fine. Yeah, you should be fine.
I know a little bit. Esco. Sorry. Back to
it. Yes, that's okay.
So one of the challenges is going to be language, which I'm very excited for. I love languages. Just the nature of First Nations languages here, I'm learning more about Yagara language, which, you know, we don't have.
C'était Mo Kouyaté de Kan Kellen. Vous la connaissez maintenant, cette chanson. Elle fait partie de notre sélection musicale pour le mois de mars. Allez, on va reparler de cinéma dans quelques instants avec Justine Triet. Elle a réalisé le chef-d'œuvre de l'année du cinéma français, Anatomie d'une chute. Tout de suite après ça.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous la réalisatrice Justine Triet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre dernier film qui a été récompensé par la Palme d'Or à Cannes et par le prix du public au Festival du film de Sydney sort ici derrière, qui était déjà plus que bien entamé.
C'est vrai que c'est difficile de savoir exactement maintenant ce que ça change, parce que j'ai pas refait un nouveau film. Mais disons que ma vie a beaucoup changé, oui, depuis la Palme d'Or, parce que je ne fais que de voyager, de faire de la promotion pour Anatomie. Du coup, oui, c'est une chance extraordinaire pour les films, pour ce film-là, d'être exposé de cette façon-là. Et moi, évidemment, une chance extraordinaire d'avoir la possibilité d'être, comment dire, vu par autant de monde. C'est quelque chose de très chanceux.
Ce film, donc, en gros, il raconte le procès d'une femme, une romancière à succès, qui est accusée d'avoir peut-être tué son mari, qu'on a retrouvé mort, a priori, après une chute depuis la fenêtre d'un chalet en montagne. Pourquoi, à votre avis, ce film, il a suscité un tel engouement, et qu'est-ce que vous avez essayé de raconter à travers ce procès, enfin ce film
Je pense que ce qui a vraiment attrapé un peu les spectateurs, j'ai l'impression que c'est plus la dimension du couple et en fait de la façon dont vraiment le film va aller disséquer en fait une relation amoureuse et essayer de comprendre en fait la part un peu obscure de ce couple-là. Et puis d'aller vraiment essayer aussi de regarder ce que c'est que les rapports hommes-femmes en fait, c'est-à-dire la Le fait que ce couple-là, en plus particulier, où la femme peut-être a une position plus dominante en fait que l'homme, ce qui est plus rare dans la vie courante, on va dire. Je pense que ça, c'est des choses qui ont touché les gens. Les gens me parlent beaucoup de leur vie quand je vais montrer le film dans des différents pays, et je sens que l'endroit où ça les touche, c'est l'endroit de profond de la crise existentielle qui peut exister entre un homme, une femme et comment trouver sa place, en fait, dans l'endroit extrêmement politique qui est l'endroit du couple et de la famille, de la maison, en fait. Je pense que Anatomie est un film, c'est un film de plus, qui est un film vraiment de maison, c'est-à-dire vraiment on pénètre dans une maison et on essaye de comprendre comment la logique, en fait, de cette maison et en l'occurrence pour ce film, pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Ouais, en tout cas, alors personnellement, je suis vraiment rentré dedans à 100%. J'ai adoré le film. J'ai vu quelques-uns de vos précédents films également, Sibyl et Victoria. Et dans Victoria, si je me trompe pas, il y a aussi une bonne partie de l'intrigue qui se déroule dans un tribunal. Est-ce que c'est un lieu qui vous intrigue, qui vous attire particulièrement? C'est vrai qu'il y a un côté déjà théâtre dans les salles d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que votre cinéma se porte sur ce genre d'endroit?
Moi, ce que je trouve intéressant, plus que le côté théâtre, ce que je trouve passionnant, c'est le match, en fait. Le match, on va dire, organisé. C'est horrible de dire ça, mais ce serait presque comme un match, voilà, comme un sport, presque, en fait. C'est-à-dire que finalement, c'est un endroit où on va regarder la balle rebondir comme on regarderait un match de tennis. Comment l'autre, la partie adverse, va réagir à l'attaque. Donc, c'est un endroit, finalement, où on essaye de comment dire organiser le chaos de l'existence des gens, et je pense que c'est forcément un endroit où aussi on a beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que c'est l'endroit où la vérité va surgir, et malheureusement c'est rarement le cas, c'est-à-dire que ça arrive des fois, mais il y a aussi plein de fois où on se rend bien compte que la vérité nous échappe ou que la vérité d'un procès n'est pas forcément la vérité réelle de ce qui se serait passé dans la vie. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de confronter finalement ce que vous appeliez le théâtre, c'est-à-dire le côté très show-off, le côté très, oui, vraiment spectacle, avec finalement ce que serait réellement la réalité de ce couple. Et donc, je pense que le film passe 2h30 à essayer de confronter ça, c'est-à-dire finalement, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que ça fait aussi que d'être dans la position d'une femme qui est accusée comme ça d'une chose terrible et de devoir se justifier continuellement? Il y a aussi une chose assez simple, mais qui, je pense, fait que le film a une forme, je pense, d'originalité. C'est que, en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression que on raconte des choses assez simples, en fait, le parcours, voilà, de cette femme, un couple, ça. Mais on passe par le prisme c'est les autres qui la racontent. Et c'est tout le temps elle qui doit se justifier. Et donc le fait que tous les autres parlent à sa place fait aussi qu'on montre aussi la société qui regarde cette femme-là, qui la juge d'une certaine façon, et elle qui passe constamment son temps à dire mais non, c'était pas ça, c'était ça. Donc c'est un double match, j'ai envie de dire. C'est un match entre déjà ce qu'on voit nous dans le sens de ce spectacle-là, mais c'est aussi un match entre elle et sa justification constante, quoi. Et je pense que ça, c'est passionnant parce que c'est à la fois une histoire intime, très très j'ai envie de dire très lambda. Et en même temps, ça confronte à des idées beaucoup plus larges, en fait, sur ce qu'on pense des hommes, des femmes et notre opinion, la morale aussi. C'est un endroit, le tribunal, où la morale vient se confronter à quand on manque de preuves, en fait, on va faire des jugements moraux. En plus, cette femme qui est plutôt libre, qui a l'air d'être plutôt indépendante, qui n'a pas l'air d'être une parfaite victime, du coup, est encore d'une certaine façon plus attaquée et plus lourdement pénalisée.
Vous l'avez dit, hein, depuis enfin, ces derniers mois, en gros, vous faites le tour des festivals et la promotion du film. Mais est-ce que vous avez déjà en tête une idée pour le prochain?
Non, malheureusement, j'ai le temps d'absolument de rien. Je ne fais que de la promotion. Mais par contre, j'ai quelques idées embryonnaires, mais je peux pas du tout en parler ici. Hein.
Bon, ben, merci beaucoup, Justine Triet, et bon courage pour le reste de la promotion. Merci encore.
Au revoir.
Au revoir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/French.
C'était Laurent Voulzy en remix cocktail chez Mademoiselle. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au/French. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.